Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur le thème que vous connaissez. Alors en fait tout démarre de réfléchir que quand on a un événement qui est en face de nous, comment est-ce qu'on doit le regarder? Est-ce qu'on le regarde comme un événement ou est-ce qu'on le regarde comme une mitzvah? Ça veut dire que quand quelqu'un regarde un événement, ça veut dire qu'il voit une loi de causalité. Chaque action entraîne une réaction. On a une réalité qui se pose devant nous et on a une certaine attitude avec elle, on a un certain regard avec elle. Bien sûr, on est tous des croyants, en même temps, on est tous des gens intelligents, des gens cartésiens. Alors maintenant, l'attitude qu'on va avoir, le regard qu'on va avoir, l'approche qu'on va avoir, elle va dépendre de ça. Est-ce que je regarde que c'est ça, c'est un événement qui m'arrive, bon, et moi je dois l'aborder. Ou alors, je regarde comme une épreuve ou comme un message divin ou comme une occasion de grandir. Comment je vais le voir? Est-ce que l'attitude qu'on a envers les événements de la vie, ouais, et l'attitude qu'on a envers les mitzvot, est-ce qu'elle est la même? Est-ce que c'est la même attitude? Alors maintenant, pour essayer de comprendre ça, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui est très connue. C'est marqué Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Kol shi irato, iratreto, kodomet se chokmato. Tout celui que sa crainte de la faute, elle vient avant, elle précède sa sagesse, chokmato mitkayemet. Alors sa sagesse va s'accomplir. Et tout celui que sa sagesse passe avant sa crainte de la faute, elle chokmato mitkayemet, alors sa sagesse ne va pas s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire chokmato, iratreto? Ouais, c'est quoi, on parle de quoi? On parle de la sagesse de l'homme, chokmato. En plus, chokmato mitkayemet. Normalement, on fait dire le projet de l'homme, la volonté de l'homme. C'est quoi chokmato? Chokmato mitkayemet, sa sagesse, elle va s'accomplir. Et ira très tôt, oui, sa crainte de la faute. Ah, il y a la crainte de la faute, il y a plusieurs niveaux de crainte. La crainte d'Hachem, c'est-à-dire ira ta romemout, ira traite, ira ta onesh, quelqu'un il a peur de prendre des coups. Il y a plusieurs attitudes différentes. Maintenant, nous, on sait que ces trois attitudes, qui s'appellent la peur de la punition, la peur de la faute et la peur, ira ta romemout, le plus haut niveau, en fait, ces trois approches, un peu comme un enfant, et un adolescent et un adulte. D'accord? Un enfant, il a peur de prendre des coups. Oui, il a peur. Pourquoi il ment? Il dit parce que j'avais peur que tu me frappes. Non, tu ne l'as jamais frappé, mais il a peur. Ouais. Il rate à Onesh. Il rattrape, c'est quelqu'un qui a déjà compris que le problème, ce n'est pas de prendre des coups. Le problème, c'est est-ce qu'on va faire les choses bien? On ne va pas faire les choses bien. Donc, il rattrape, ça veut dire que quelqu'un qui fait attention, que ce qu'il produit, ça soit bien. Et lui, il a peur de fauter, ça veut dire qu'il a peur d'endommager ce qu'il crée. Il veut faire des choses propres. Il a appris, maintenant, il sait ranger une chambre, il sait, quand il rend un devoir, il le rend sans tâche. Oui, quand il fait une soirée, eh ben, tout est bien. Et quand il offre un cadeau, il n'y a pas de sous-entendu. Ça veut dire qu'il rattrape, ça veut dire qu'il a la crainte que les choses soient bien faites. Après, il y a un niveau supérieur, ça s'appelle irat aromemut. Ça veut dire que c'est la crainte de ce qui est élevé. Donc ça c'est différent encore. C'est que je suis tellement bien avec Hachem, j'ai tellement une bonne relation avec lui, que j'ai peur. Mais je n'ai pas peur qu'il me frappe, je n'ai pas peur de faire une erreur, j'ai peur d'endommager cette relation. Parce que je suis bien avec Hachem. C'est que quand le Yetzirah vient, il me propose de faire une Avera, il dit mais je suis bien avec Hachem, je suis bien. Oui, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas la culpabilité d'une Avera parce que je n'ai pas fait d'Avera. Parce qu'en fait, le problème de la faute, ce n'est pas seulement que tu transgresses un interdit, ce n'est pas seulement que tu vas être puni plus tard, ce n'est pas seulement que ça entraîne des choses dans ta vie, c'est que ça te met dans un malaise. Dans une rumba, ouais, que chaque chose, elle va être imprégnée de ça. D'accord? Donc tu vas aller voir le client, mais tu vas dire, de toute façon, je ne mérite pas. Ouais, tu vas prier pour tes enfants, mais de toute façon, tu dis, c'est, je vais être puni. Après, tu veux faire un projet, et tu dis, de toute façon, je ne sais même pas si je le finirai. Mais c'est quoi cet esprit? En fait, le pessimisme, la tristesse et la peur, ils sont le fruit de la culpabilité de la faute, qu'à l'intérieur de soi-même. Et si quelqu'un va dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne sont pas religieux? Mais ça ne change pas. Parce que des gens, par exemple, que depuis qu'ils sont petits, on leur a dit qu'ils sont nuls et qu'ils sont incapables, toute leur vie, ils voient la vie à travers un petit écran. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est la culpabilité qu'on leur a mis. Donc maintenant, que quelqu'un il a une culpabilité parce qu'il a fauté, ou quelqu'un il a une culpabilité parce qu'on lui a dit qu'il était nul, ça ne change rien. C'est qu'en fait, son faisceau, il va être restreint. Quand on a une lampe, on allume la lumière. D'accord? Maintenant, quand on ouvre la lumière, on va créer un espèce de losange de lumière. Le losange, il va être comme ça, 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 ça dépend. ça dépend l'angle de la lampe. Oui. Maintenant, c'est très intéressant. C'est que, quand, imaginons, on est dans une caverne toute noire et on a une lampe de poche. Donc, pour l'instant, tout est noir. Maintenant, quand j'allume la lampe, à ce moment-là, il y a un truc qui apparaît dans la caverne. Mais ça ne pourra pas apparaître plus que la largeur du faisceau. C'est clair ou... Oui. Eh bien, c'est exactement pareil. Les gens qui sont fermés d'esprit, ils vont avoir un faisceau petit. Or, la caverne, c'est quoi? C'est la vie. Et ce qui apparaît, c'est ce qui est relié à toi. Donc, maintenant, le mesquin, il va voir des choses petites. Et le grand, il va voir des choses grandes. Celui-là, il va dire, eh ben, ça serait bien si on arrange, si on repeint les toilettes de l'appartement. Et l'autre, il va dire, ça serait bien si on trouve un virus pour le sida. Pourquoi un, il voit comme ça, ouais, et l'autre, il voit petit. C'est le faisceau. Maintenant, que ton faisceau il soit restreint parce que tu es complexé psychologiquement, ou que ton faisceau il soit restreint parce que tu penses que tu n'auras jamais droit à un bon mazal à cause des fautes que tu as faites, dans les deux cas, le faisceau il est restreint. Ça va? Maintenant, la force de Yetzer Hara, c'est qu'avant la faute, il te dit que c'est pas grave, et après, il te dit que tu es foutu. Donc avant, c'était de l'inconscience et de l'ignorance, et après, c'est de la culpabilité. Maintenant, toi, quand tu ne veux pas écouter les Yetzer Hara, donc tu ne dois pas l'écouter avant sur l'inconscience et l'ignorance, c'est pour ça que tu es obligé d'être conscient et d'être connaisseur, tu dois apprendre, tu dois connaître la Torah, mais après la faute, tu ne dois pas non plus tomber dans les Yetzer Hara de la tristesse. Tu dois accepter que tu as fauté, tu dois accepter qu'il faut payer, c'est normal, tu as fait une bêtise, ouais, mais tu peux payer en positif, tu n'es pas obligé de payer en négatif. Tu peux grandir, tu peux évoluer, tu peux faire de la sdaka, tu peux aider des pauvres, ouais, tu peux visiter des malades, et ça sera une capara aussi. Et cette logique-là, ça veut dire que quelqu'un, il est dans une attitude. Or, si vous comprenez bien, l'attitude, c'est les yeux avec lesquels je regarde la vie. Comme quelqu'un, il a des lunettes tellement sales, il voit rien. Ouais, c'est un pays d'Afrique. Ou le contraire, quelqu'un, il voit clair, il voit net. Il vient de faire la visite chez l'ophtalmo, il a changé les verres, il dit waouh, la vie elle est différente. Et bien c'est pareil, nous, on fabrique nos propres lunettes. On fabrique les lunettes de nos enfants. Parce que si on les élève dans le stress, ils vont avoir une autre vision. Oui, on fabrique les lunettes de notre conjoint. Parce que quand on l'angoisse et on la traite d'idiote, on lui change les lunettes. Toute la vie c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attitude qu'on va avoir, l'approche qu'on a dans la réalité, elle doit être nécessairement réfléchie. Parce qu'il faut faire attention, parce que c'est tout le reste qui va aller avec. C'est exactement pareil. C'est quand on parle de dire à très tôt, ouais, la crainte de la faute, vous avez compris que, en fait, ça s'appelle en français la nécessité de bien faire, la recherche de la perfection, de faire des choses qui soient bonnes, qui soient bien. Maintenant, qui c'est qui recherche les choses bien? Quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est à moitié, ça ne dérange pas la moitié. Il dit, bon, c'est pas rangé, c'est pas fini, c'est pas conclu, c'est pas grave, parce que lui-même, il n'est pas complet. Oui, parce que je projette ce que je suis. Mais quelqu'un qui est complet, sachez que celui qui aime les choses bien faites, c'est quelqu'un qui est bien fait. C'est un miroir. La vie, c'est un miroir. D'accord? Donc, tu devrais te désoler de ne pas avoir cette recherche. Mais c'est déjà pas mal, et c'est mieux que rien. Et bien, pourquoi il n'y a pas une recherche de perfectionnement? Tu regardes la nature, elle est parfaite. Ouais, tu regardes une forêt, tu regardes l'harmonie des couleurs, tu regardes un coucher de soleil, c'est une œuvre d'art. Tu regardes les détails du comportement de la fourmi, c'est parfait. Donc Hachem, il a fait quelque chose de parfait parce qu'il est parfait. Et toi, tu dois être à l'image d'Hachem. Donc comme toi, tu veux quelque chose de parfait, alors tu dois être parfait. Maintenant, les gens qui n'ont pas l'exigence de la perfection, c'est des gens qui ont renoncé à la perfection. Parce que tout le monde veut le parfait. Ouais. Qui c'est qui ne veut pas le bonheur? Ouais. Alors moi je pose la question, si les gens ils veulent le bonheur, pourquoi ils font tout pour qu'ils n'arrivent pas? Celui-là il fait la tête à la maison, celui-là il se traîne, celui-là il s'engueule, celui-là il se prend la tête pour des bêtises, celui-là il invite les deux cousins qu'il ne faut jamais inviter, je vous l'ai déjà dit, ça vous rappelez ou non? Il y a deux cousins américains, il ne faut jamais les inviter. Ils vont insister, ils vont te dire, je peux venir pour Shabbat, est-ce que je peux rester pour Pessah, est-ce que je peux vivre chez vous? C'est deux cousins, ils s'appellent Paul et Mike, c'est les deux cousins. Ça vous dit rien? C'est la polémique. Il ne faut jamais laisser rentrer la polémique. Quand tu sens que la polémique, elle rentre, d'accord? Maintenant, tu vas te prendre la tête pour un détail. Maintenant, tu vas utiliser ta susceptibilité pour t'accrocher sur une lourdeur. Maintenant, tu as été vexé, alors tu vas dire, comment ça se fait que tu mets 3 heures pour faire les valises? D'accord? Maintenant, tu as été, tu as mal. Maintenant, tu vas. Ouais, ta mère, elle n'a pas appelé pour Shabbat, mais elle est morte. Et pourquoi elle n'a pas téléphoné? Ouais. C'est la polémique, ça. Ça veut dire que c'est une manière de faire de la mousse et de développer un événement sur la base de rien. Tu sais que ça ne sert à rien, tu sais que ça mène à rien, mais c'est plus fort que toi. Maintenant, si quelqu'un n'a pas cette vigilance, d'accord, de la perfection, il peut laisser pourrir la situation et ça ne le dérange pas. Parce qu'il pourra toujours dire que c'est la faute de l'autre. Regardez les Israéliens et les Palestiniens. Ça peut durer 4000 ans. Parce que chacun il pense qu'il réagit en se défendant de l'autre et l'autre il pense qu'il fait en représailles de l'attaque de l'autre. Donc ça ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas la paix. Le but, c'est la guerre. Alors, c'est pareil. Donc maintenant, mais le but, c'est quoi? C'est l'attitude avec laquelle tu abordes. Donc quand tu rentres à la maison, tu es venu pour la guerre ou tu es venu pour la paix? Quand tu rentres à la synagogue, tu es venu pour prier ou tu es venu pour parler? Quand tu vas à l'étude de la Torah, tu es venu pour développer ta sagesse ou pour te rapprocher d'Hachem? Donc l'attitude que tu as au moment où tu rentres dans la situation, elle change tout. Elle change tout. Tout est différent. Et bien, c'est ça la lecture. Coach ira très tôt, connaît tes chormato. Parce que c'est quoi chormato? Les gens, ils croient. Alors, le premier pshat, le plus simple, c'est quoi? Ira tôt, connaît tes chormato. Ça veut dire que c'est quelqu'un, que sa ira, sa crainte, elle passe avant sa sagesse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui étudie pour augmenter sa ira tchamayim. Ouais, pourquoi tu vas aller, Shiva? C'est pour être intelligent. Mais alors, fais des maths. Ça ira plus vite. Non, c'est parce que tu veux te rapprocher d'Hachem. D'accord? Pourquoi tu fais les mitzvot? Eh bien, parce que ça porte bonheur. Eh bien, achète un fer à cheval. Achète une patte de lapin. Pourquoi tu fais les mitzvot? C'est pour te rapprocher d'Hachem. Donc, ça veut dire que la nature de la relation que tu entretiens, ici, c'est une question de priorité. Donc, celui qui étudie la Torah pour augmenter sa crainte d'Hachem, il s'appelle Irato Kodemet les Chochmato. Par contre, celui que Chochmato Kodemet les Irato, c'est que sa sagesse, elle passe avant sa crainte. Ça veut dire qu'en fait, lui, il vient pour l'intellectuel de la Torah. Ouais. Lui, il vient pour la réflexion de la Torah. Lui, il vient pour la psychologie de la Torah. Ça n'intéresse pas la crainte. D'accord? Ça veut dire qu'il va venir à toutes les conférences, mais il mange du cochon. Il a lu tout le Maharal de Prague, mais il mange à Kippour. Il ne fait pas Shabbat. C'est Chochmato Kodemet Lirato. Ouais, il ne voit pas d'incohérence. Il est le malaise. Dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est la sagesse de la Torah. C'est pas la crainte d'Hachem, c'est-à-dire c'est pas l'opportunité que ça me donne d'être plus proche d'Hachem. Ça m'intéresse pas, il veut pas la proximité avec Hachem. Pourquoi? Parce que la proximité avec Hachem, elle dérange. Elle crée des complexes. Elle crée des obligations. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Ouais. C'est comme la nouvelle mode maintenant. Les gens, ils font teshuva avec des mouvements qui leur proposent un rav qui est mort. C'est bien. C'est tranquille, le rav, il est mort. Maintenant, il est mort il y a 300 ans, il est mort il y a 10 ans, il est mort il y a 20 ans, mais il est mort. Comme ça, qui c'est qui va te tirer l'oreille? C'est tranquille, il est mort. En plus, quand quelqu'un est mort, c'est bien parce que tu peux faire dire ce que tu veux. De toute façon, il ne va pas venir te contredire, il est mort. Non, il faut un rave vivant. C'est quoi un rave vivant? Un rave vivant, c'est quelqu'un que tu peux aller voir et demander conseil, mais aussi quelqu'un qui peut te dire, oh là, tu t'es planté là. C'est un rave vivant. D'accord? Maintenant, fabriquer un rave vivant. Avoir un rêve vivant, c'est ça, assez déclarable, ouais. C'est dans l'espoir que si Dieu veut, toi-même, tu vas avoir un rêve vivant en toi. Parce que sachez que tout ce qui existe chez vous, ça ne peut, devant vous, ça ne peut pénétrer chez vous que si en vous, il y a le relais de cette chose-là. Mais dans le bien comme dans le mal. Quand vous avez un événement devant vous, ouais, pourquoi cet événement vous touche? Parce qu'il y a une partie de vous qui prend le relais. Toujours de vous expliquer le bourreau et la victime, vous vous rappelez ou non? Pour que le bourreau crée la victime, il faut qu'à l'intérieur de la victime, il y ait une partie d'elle-même qui soit le relais du bourreau, ouais, et qui va te faire rentrer l'impact de la méchanceté du bourreau. Donc avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es victime du bourreau qui est en toi. Parce que pourquoi tu restes victime? Vas-y, bouge! Oui, mais vous ne le connaissez pas, c'est trop difficile, je m'en sortirai jamais, elle est folle, elle m'a mis un sort, elle m'a fait du schror. Mais ça va, bouge, vas-y. Si tu as peur, prends un garde du corps, si appelle la police, regarde les voies légales, va voir un mécoubal, fais le plomb, mange du chien, trouve une solution. non, vous ne la connaissez pas, je ne m'en sortirai jamais. Donc tu vois que la personne, elle est victime du bourreau qui est en elle, qui est le relais du bourreau qui est devant elle. Ça va? Mais dans le positif aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu as des parents équilibrés, ils ont fabriqué en toi la conscience, et la conscience, ça va être le parent qui va te remettre en cause. Donc même quand tes parents ne sont pas là, ils vont te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc l'intérêt des parents vivants, c'était de donner, de fabriquer le parent psychologique. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu vois, enfin, j'ai quelqu'un, que quand il perd ses parents, il pète les plombs, il pète les clans, il tombe en dépression, ou il ne comprend plus rien à la vie, ou il fait un retour en enfance, c'est parce qu'en fait, il n'a pas profité de la présence des parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques. C'est comme si on... Parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est un câble, ouais, qui est tendu au-dessus des chutes du Niagara. Et on est tous des funambules. Ouais. Maintenant, c'est très très dur de traverser la vie sur un câble, parce que c'est pas large un câble. Alors on a donné une grande barre comme ça, qui fait 5 mètres. Et cette grande barre, il y a deux poids. Là, il y a un poids qui s'appelle la mère, et là, il y a un poids qui s'appelle le père. Ça va? Maintenant, quand toi, tu as le père et la mère, ouais, tu fabriques les deux parents psychologiques, qui sont la conscience et la sensibilité. Le jour où le papa y part, la conscience, elle est là. Le jour où la maman, elle part, la sensibilité, elle est là. La preuve, c'est que toi, entre-temps, tu vas devenir le père et la mère de tes enfants. Mais si toi, tu comptais entièrement sur la conscience de l'autre, donc le jour où tu perds ton père, tu perds conscience. Tu deviens gamin, tu deviens fou, tu dis j'insulte plus, tu restes dans ton coin, tu t'enfermes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas profité de la présence des parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques. Donc ça veut dire que la réalité, elle ne peut exister chez toi que si tu as fabriqué le relais de cette réalité. Comme dans le bien, comme dans le mal. Ça va? C'est clair ou... Alors si c'est ça, maintenant quand quelqu'un y réfléchit, on a dit « irato kodemet le chokmato ». Ouais, c'est quoi sa crainte? Sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse, ou sa sagesse, elle passe avant sa crainte. Alors la deuxième lecture, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que c'est chokmato? C'est quoi la sagesse, sa sagesse? En fait, c'est le projet de l'homme. Chacun d'entre nous, il a un projet. Tiens, moi, j'ai envie de créer un business. Moi, je voudrais avoir une belle famille. Moi, je voudrais développer un nouveau style de bateau. Moi, je voudrais amener un vaccin pour telle maladie. Ça s'appelle chokmato. C'est ton projet personnel. Et à part ça, étant donné que tu es juif, d'accord, et qu'à 8 jours, on a coupé toute discussion, donc, à part ça, il y a le projet divin. Le projet divin, ça veut dire, oh, t'es un ben Israël, tu dois étudier la Torah. Quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu ne va pas te demander, est-ce que tu as détrôné Koukaï? Il va te demander, est-ce que tu as fini le chasse? Mais quand même, c'était beau Koukaï quand même, j'ai cassé Koukaï. D'accord, ok, mais à part ça, est-ce que tu as pris le chasse? Ouais? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, en tant que juif, hein, en tant que goy, c'est pas évident, mais en tant que juif, on est toujours pris entre un projet divin et un projet humain. C'est que le bon Dieu, il attend quelque chose de moi, et à part ça, moi, j'ai un petit intérêt. Maintenant, chez les enfants, c'est quoi? C'est que le père, il dit, écoute, je veux que tu réussisses ton examen, mais l'enfant, il dit, attends, mais moi, j'ai envie de kiffer ma jeunesse, moi. Toi, tu veux que je m'attache toute la journée à faire des maths et du français et de l'anglais et de l'espagnol, mais moi, j'ai envie de sortir en boîte, j'ai envie de boire du coca, Oui, le projet de l'enfant, il est à court terme. Le projet de l'adulte, il est à long terme. Mais mon fils, quand tu seras médecin, tu feras ce que tu veux. Quand tu auras fini ton école d'ingénieur, quand tu seras intermittent, tu seras tranquille. Mais va travailler. Donc le père, il voit à long terme, mais l'enfant, il voit à court terme. Parce qu'il dit, voilà, toute la jeunesse, elle va passer. Tous les copains, ils se déchirent, ils s'éclatent. Et moi, je vais rater ma jeunesse, à être enfermé dans une pièce, à faire de la physique et de la Mishnah. Ouais. Ben ça, c'est le projet de l'homme. Et ça, c'est le projet de l'enfant. Et ça, c'est le projet d'Hachem. Et ça, c'est le projet de l'homme. Vous voyez ou... Ouais. Alors...
C'est comme l'avant, dans la caverne.
Exactement.
Pour le parent, il a
un faisceau large. Et l'enfant, il a un faisceau. Voilà. Parce que comme l'enfant, il voit à court terme, il voit juste la sortie de la lampe. Alors que l'adulte, lui, il voit tout l'éclairage qui est porté. Alors tu dis, mais mon fils, maintenant tu es en train de fabriquer ta lampe. Fais un faisceau large. Tu sais quoi? Installe la lumière dans toute la caverne. Au lieu de regarder comme ça mesquine, ce que tu peux gratter. C'est un esprit. Alors maintenant, si c'est ça, si on dit que Ira très tôt, c'est le projet de Dieu. Ouais. Et Chochmato, c'est son projet à soi. Donc ça veut dire quoi? Miché ira très tôt que d'émettre les Chochmato. D'accord? Ça veut dire que toi, en tant que juif, ouais, le projet divin qui existe, qui te traverse, que tu participes, tu mets des tefillines, tu manges kasher, tu aides les chivots, tu améliores la Torah, tu encourages tes enfants, ce projet divin, il passe avant ta Chochma. Avant ton projet personnel, ton magasin, ton truc. Non, le problème, c'est que des fois, les deux, ils se croisent. Ouais, parce que ton projet personnel, le magasin, mais le projet divin, il faut fermer Shabbat. Donc, ça se croise. Ton projet personnel, que tu adores les qualités morales de ta femme, ouais, le projet divin, elle est interdite parce qu'elle est nida. Allez, vas-y, conflit. Comment tu vas faire? Donc, tu veux ou non? Le projet humain, hein, si Dieu veut, on atteint le milliard, ouais, le projet divin, et tu te dis, mais c'est de l'argent volé. C'est des tramouilles. C'est des magouilles. Ok, tu amènes les containers de casseroles. Ok, mais pourquoi tu mets 24 kilos de cocaïne dans chaque container? Tu dis, ça amortit les frais. Comment ça amortit les frais? C'est toi qui vas aller passer du temps aux frais en prison. Non, j'ai des gens comme ça. Je les voyais parler comme ça. C'était dans un autre pays. Et ils parlaient gentiment, hein. Le gars, il lui a dit, bon, je fais rentrer. Bon, il faisait rentrer des produits exotiques, comme ça, des épices, des trucs. L'autre, il lui a dit, mais écoute, ça vient du Maroc. Mets du shit dedans. 20 kilos, c'est rien dans un container. Un container, c'est énorme, ouais. En plein milieu, tu mets. Et l'autre, il est en train de parler, il dit, non, parce que j'ai vu que la douane, elle contrôle. Tu sais, tous les cartons qu'ils ouvrent, ils mettent un scotch jaune dessus. Et ben, des fois, ils vont jusqu'au fond du truc, ils sont en train de parler, oui, non, oui, non. Il y en a pas un qui s'est dit, mais je suis fou, quoi, moi, je suis un malade, je vais mettre du shit, ouais, avec les olives. Je dis, voilà, les deux en train de parler. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ouais, c'est comme si tu dis, écoute, combien t'as d'enfants? 6. Tu sais quoi? La quatrième, t'as qu'à vendre un vin, tu vas te faire de l'argent. De toute façon, avec un, deux livres. Tu sais combien tu peux vendre un vin? 100 000 euros. Tu sais, jamais les gens, ils parlent comme ça, non? De vendre un vin d'un enfant. Oui, non? Je sais pas, je connais pas votre vie privée, mais. Ouais. On fait pas ça, non? Oui, non? Alors, si on vend pas un vin d'un enfant, On peut mettre de la marijuana dans les containers. On peut l'envisager. Parce que ça reste du commerce. En plus, ça va être bientôt légal. À la limite, c'est un médicament. C'est un service civique que tu rends. Là, tu peux rentrer dans la logique. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? C'est pas ta chorma. Parce que ta chorma, elle va te dire, mais t'es fou. Tu prends un petit volume comme ça dans un conteneur qui te revient même pas 20 euros de transport et tu le vends à 35 000 euros. Et tu rigoles, c'est de l'argent. Donc ta chorma, elle va te dire. C'est pareil. Parce que quelqu'un va dire, ah, c'est un petit peu débile. Mais les gens, ils font ça dans toutes les avérotes. Dans toutes les avérotes. Le gars, il est malheureux. Il dit, moi, ma femme, je l'aime plus. Elle a pris 54 kilos. Je peux plus la voir. Et la voisine, elle est magnifique. Et son mari, il est vieux. Et je suis sûr qu'il la rend même pas heureuse. Et moi, je la vois souffrir, et je vois qu'il est méchant, et qu'il est pervers narcissique, et moi, je vais lui parler, et je vais la draguer, et je vais la mettre à l'aise, et comme l'autre, il est à moitié sourd, à moitié fou, je vais l'emmener en week-end à Monaco, et je vais la faire kiffer, elle va monter au plafond. Donc, c'est une mitzvah! Bon, ça a l'air rigolo comme ça. Et ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle Chochmato, Kodemet, Leira très tôt. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire des Chochmot, mais elle est mariée? Ah, tout de suite avec les gros mots. Comment ça, les gros mots? Ouais. Parce que qu'est-ce qui va t'arrêter? Qui c'est qui dit ça? C'est le Raphaël de Brisk. Le Raphaël de Brisk, il dit... Non, c'est pas le Raphaël, c'est le Beth Alevi. Le Beth Alevi, donc c'est son grand-père, il dit que quand la Torah, elle a dit l'otarmod velotitave, tu ne dois pas convoiter la maison de l'autre, tu ne dois pas désirer la maison de l'autre, tu ne dois pas convoiter la femme de l'autre. Mais c'est bien qu'on t'a expliqué que c'est un sourd et qu'elle ne t'appartient pas et qu'il faut être sérieux et que c'est pas bien et que ça porte malheur. Mais c'est pas ça qui va te retenir. C'est seulement la Yirat Shamayim. Si tu n'as pas la Yirat Shamayim, et si elle est folle, et si elle vient en déshabillé quand ton mari n'est pas là, 4h du matin, elle tape à la porte, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas fauter. Tu dis, c'est pas bien, c'est un sourd, c'est un ami à moi, en fait, c'est mon beau-frère. Non, non, tu vas fauter. Tu vas le faire. Comme un chien, tu vas le faire. C'est seulement la crainte qui va te sauver. Mais ta chorma, elle va te dire, mais personne n'est au courant, il est 4h du matin, c'est une femme magnifique. Ça, c'est une occasion, je vais la rater. Bal tashrit. Donc les gens, ils font des chokhmot. Mais pourquoi tu abordes avec la chokhma ou tu abordes avec la ira? C'est ce qu'il dit. Il dit, Mishir chokhmato, kodemet le irato. Vous avez compris maintenant, c'est deux droites. Il y a une droite qui s'appelle ton projet personnel et une droite qui s'appelle ton projet divin. Le problème, c'est qu'est-ce que tu mets en priorité et est-ce que tu les superposes? Il dit maintenant, Mishir chokhmato, kodemet le irato, celui que sa sagesse et que son projet personnel passe avant sa crainte de la faute, et chokhmato mitkayemet. C'est bizarre la réponse. Ouais. Moi j'aurais dit, eh bien c'est un rachat, ou j'aurais dit, il ne va pas aller au monde futur. Non. C'est pas seulement que tu n'as plus rien à voir avec le spirituel parce que tu as fait passer ta sagesse avant. C'est que même ta sagesse, ton projet ne va pas s'accomplir. C'est bizarre, non? Moi j'aurais dit, il y a deux mondes. Il y a un monde des gens qui vivent dans le Chol et des gens qui vivent dans le Kodesh. Ouais. Ben, ceux qui sont dans le Chol, eh ben, ils ont une vie qui fonctionne dans le Chol, dans le profane, et d'autres qui ont une vie qui fonctionne, et bien même. Dans le Chol, ça ne fonctionne pas. Parce que le gars, il a la belle maison, mais tous les gosses sont malades. Ils sont moitié fous. Ouais. L'autre, il a une femme magnifique, mais du coup, il est devenu jaloux chronique parce que tout le monde la regarde. Celui-là, il voulait avoir une belle voiture, mais elle l'a mis dans un mur. Il dit que c'est là, il a marre parce que... Je ne comprends pas. C'est-à-dire que ça s'appelle les défauts induits par les qualités. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas la bracha à l'intérieur de ta réalité... Alors, à quoi ça t'a servi? Donc, même Chochmatecha, même ton projet, il s'accomplira. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu pousses tes enfants à faire des études, des études, c'est ça qui compte, laisse-moi tranquille. Allez, c'est pas grave. Eh bien, l'examen, il tombe Shabbat. Vas-y, et la prépa, et tout. Et puis, c'est dans une école, et tu vas manger ta rêve, d'accord. Eh bien, maintenant, grâce à Dieu, voilà, il est ingénieur. Ouais? Ok. Eh bien, il vient, il t'amène, il te présente, il dit, voilà, je te présente Fatima, si Dieu veut, on va se marier. Pourquoi t'es mal à l'aise? Voilà, il est docteur, non? Tu voulais qu'il soit... Il est docteur en ingénierie nucléaire. Ouais, tu vas pouvoir freiner. Ah, viens des graquilles, tu vas dire, mon fils, l'ingénieur. Il dit, c'est qui qu'il y a là? Ah, c'est Fatima, c'est sa femme. Il présente Mohamed, le petit. Mouloud, le cadet. Tu vas dire, mais c'était pas ça le but, le but. C'est pas ça le but. Et tu voulais qu'il soit ingénieur? Voilà, il est ingénieur. Mais pour qu'il soit ingénieur, t'as renoncé à tout. Tu as enlevé ses valeurs, tu as enlevé l'influence, tu as enlevé la cache-route, tu as enlevé le Shabbat, tu as enlevé tout. Ben, il a fait comme toi, lui. Il a enlevé tout. Donc il a enlevé le veto. Ouais. Et vas-y, va t'arranger maintenant. Va remercier le bon Dieu qui est l'ingénieur. C'est comme ça la vie. La vie, c'est qu'il y a le bien et il y a le mal, mais ils sont indissociables. C'est impossible. Donc il y a ton projet personnel et il y a le projet divin. Il dit maintenant ici c'est marqué dans le Tanakh, dans Pirkei Avot, c'est que quand tu fais passer ton projet personnel avant le projet divin, même ton projet ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours teinté de quelque chose de faux, de quelque chose de vide. Ouais. Moi j'ai parlé avec des gens très très riches, pas des gens bien aînés, qui ont fait trois magouilles et qui ont gagné 1 million d'euros. Des gens très très riches, ils te disent ma vie elle est vide. Une coquille. C'est comme si tu vas à Hollywood et tu visites les décors. Vous savez, ils ont des décors de malades mentaux. Maintenant, il y a un truc bizarre. Pendant 2 ans, ils ont tourné un feuilleton dans ces décors. Donc, tu vois des belles maisons, tu vois des trucs en marbre, et tu vois des boiseries, et tu vois des relèges, et tu vois des baies vitrées. C'est extraordinaire. Mais c'est qu'un décor. D'accord? Et un jour, un gars, il va pour visiter les studios. Il dit, excusez-moi, on est au dernier épisode. Oui, on finit le tournage. Qu'est-ce que vous allez faire avec les décors? Il va en les démonter, on les jette. Comment vous les jetez? C'est pas possible. Est-ce que je veux dire? Tu vas jeter les décors de Dallas. Tu vas jeter les décors du film de Weber. Mais l'autre il dit, mais c'est que des décors. Donc c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Est-ce que la vie, c'est qu'un décor pour une comédie qui s'appelle la vie? Ouais. Non, la vie, c'est pas ça. C'est pas le décor. Qui s'en fout du décor? Je sais quand on dit aux gens, est-ce que vous préférez être malheureux dans une maison magnifique ou heureux dans une maison moyenne? Les gens disent, non, je vais être heureux dans une maison magnifique. C'est normal, oui. Mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que pour avoir l'essentiel, il faut renoncer au superficiel. Donc en fait, c'est le renoncement au superficiel qui t'a donné droit à l'essentiel. Mais quand t'as choisi le superficiel, t'as renoncé à l'essentiel. Donc je peux pas avoir l'essentiel puisque t'as renoncé à l'essentiel. Enfuyé ou... Si tu veux que tes enfants aient des valeurs, il faut leur donner des valeurs. Mais si tu leur donnes des valeurs, ils n'ont pas de valeurs, puisque eux, ils veulent des valeurs, puisqu'ils n'ont vu que des valeurs. Donc il faut leur donner des valeurs. Et bien des fois, pour leur donner des valeurs, il faut renoncer aux valeurs. On disait un peu tout à l'heure. Il y a un peu la haine haute, un peu la difficulté, c'est bien. Ils voient que l'enfant, que c'est pas facile. Ils voient que 100 euros, c'est 100 euros. On dit 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. 100 euros. Mais quand il est au collège et qu'il gagne 100 euros, il dit, j'ai gagné 100 euros. T'as gagné 100 euros. Et t'as mangé, t'as dormi, et t'as aimé, et t'as développé, et t'as aimé tes enfants, et t'avais 100 euros. Ouais. Et l'autre, il dit, moins que 4000, je peux pas. Je vais mourir. Je vais mourir. Attends, le café, il coûte 19 euros. Où t'habites, toi? J'habite aux Champs-Élysées. Ah ben oui, c'est ça ton problème. Et cette logique-là, tu dis, on veut les gâter pour qu'ils profitent, mais en vérité, on les pourrit. Là, j'étais à Tibériade, on a fait un Shabbat, 70 personnes. Les seuls qui ont râlé, c'est ceux qui viennent des familles riches. Tous les autres, ils se sont dit, mais c'est super, c'est beau, c'est bien, les ambiances, la bouffe, elle est super, le paysage, il est bien, on apprend des choses extraordinaires. Et qui c'est qui a râlé? Ah, c'est moche, ah, il y a des poils d'araignée. Allez. Donc tu crois que tu leur as rendu service? Tu les as pourris. Le contraire, tu les envoies dans une colonie de vacances avec des pauvres. Et qu'ils aillent là-bas à la colonie. Et qu'à la colonie, non, ils sont là, ils font griller des patates. Ils disent, là, l'année dernière, on était aux Maldives. Et là, on est dans les Pyrénées à faire cuire des patates. Mais on a une telle ambiance, on a une telle fraternité, on a un tel esprit de groupe, ça va aller, c'était bien cette colonie. Là, ça, tu lui as donné des valeurs. Et là, tu lui as donné des souvenirs. Des cartes postales. Ouais. Là, t'as qu'à prendre des photos et tu lui mets dans son ordinateur qu'il a besoin d'aller. Ben, ça, c'est pareil. Ça s'appelle Chochmato. Connaître les irato. Par contre, le contraire, irato, connaître les chokmato, ça veut dire que sa crainte, elle passe avant sa sagesse. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit? Celui qui fait passer sa crainte de Dieu avant sa sagesse, on aurait dû dire irato mitkayemet. Ça veut dire, il va devenir un tzadik, il va devenir un gadol, il va devenir un grand ami chacham. Non, il y a écrit chokmato mitkayemet. C'est celui qui fait passer le projet divin avant son projet personnel, c'est son projet à lui qui va s'accomplir. C'est bizarre, non? Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Mais non, le gars, il est entièrement dans la Torah, dans la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Donc qu'est-ce qui va fonctionner? Sa Torah. On dit, mais sa Torah, bien sûr qu'elle va fonctionner, mais à part ça, le bon Dieu lui donne le cadeau. Ouais, chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire que son projet personnel, qui veut aussi une famille, qui veut aussi des enfants, qui veut aussi être intelligent, qui veut côtoyer des gens bien, qui veut avoir une maison pour habiter. Ça, c'est Chochmato Mitkayemet. C'est on te le donne. On te le donne. Pourquoi? Parce que c'est vrai que celui qui sacrifie le superficiel pour avoir l'essentiel, il va avoir l'essentiel. Ouais, mais le superficiel, on lui donne en plus, puisqu'il s'en fiche. Par contre, celui qui sacrifie l'essentiel pour avoir le superficiel, quand il a le superficiel, il ne peut pas apprécier l'essentiel. Parce que quelqu'un qui est bien superficiel, tu vas lui dire, tu sais, il y a un Rabbi Akiva Iger qui répond à la question du Tosfot dans Roulin. Il ne sait même pas. Il croit que Rabbi Akiva Iger, il croit que c'est une sauce. Il croit que Roulin, c'est un plat chinois. Ça veut dire que lui, sa lampe, elle n'éclaire pas certains objets. Il ne les voit même pas. Il ne les voit pas. Comme les gens qui regardent les qualités morales de leur femme, mais qui ne voient pas leur finesse, leur gentillesse, leur douceur, leur sacrifice. Mais de toute façon, tu as vu tout ce que je la gâte. Elle n'est pas obligée de faire ça. Elle n'est pas obligée. Donc pourquoi toi tu vois l'extérieur des choses? Ouais, parce que tu as renoncé à l'intérieur des choses. Et dans tout, c'est pareil. Tu vois ton mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Apprends à regarder son essentiel. Ne regarde pas son superficiel. Apprends. C'est un travail. Parce que les gens, ils voudraient que l'autre, il soit comme eux, ils veulent. Alors qu'en fait, il faut apprendre à l'aimer tel qu'ils sont. Mais aimer tel qu'il est, ça s'appelle voir l'essentiel. Ouais. Et rêver qu'il soit différent, c'est voir le superficiel. Parce que quand tu rêves de quelque chose, en fait, tu rêves de quelque chose qui n'existe pas. Aïnou Kéchol. Mais si tu dis la personne, elle est là. Voilà, écoute, elle est là. Voilà, elle est là, elle se lève, elle travaille, elle peut lui voyer, elle est gentille, elle est douce, elle est attentionnée. Bon, elle a un caractère, un truc, mais écoute, globalement, c'est quand même quelqu'un de super. Alors, aime-le. Non, non. Moi, je voulais qu'il soit intellectuel. Moi, je voulais qu'il soit prévenu. Moi, je voulais qu'il soit grand. Je voulais pas qu'il soit chauve. Mais le pauvre, il est chauve. Tu dis non, pourquoi il est chauve? Ouais. C'est comme le gars qui va dire qu'il n'aime pas, il n'aime pas un point physique de sa femme. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, ta peau? Il dit, ouais, mais c'est, les hanches, ils sont un peu... Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? J'ai pas compris. Tu veux qu'elle meure? Non, il y a des gens comme ça. Ah, c'est dommage quand même, parce que ne reproche jamais quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas changer. Tu reproches quelque chose, que... mais l'autre, il va mourir, l'autre. Non, mais c'est juste que c'est une question d'esthétique. J'aurais préféré. Alors, soit tu te piques toute la journée à la coque et tu rêves. Ouais. Soit tu te jettes par la fenêtre. Parce que moi, je ne vais pas changer. J'ai des hanches, hec. Ils sont là. Vous voyez cette logique-là ou non? C'est-à-dire que tu tortures l'autre avec tes halomotes. Parce que tu n'es pas essentiel. Pourquoi ta mère, elle était sexy, ta mère? Non. Parce que pour toi, ta mère. Le côté maternel de ta mère, elle était plus importante que le côté sensuel de ta mère. Donc jusqu'à quel âge ta femme, elle doit être Madonna? Maintenant qu'elle est grand-mère. Et le contraire aussi, ton mari aussi. Ça, il est, laisse-le tranquille. Arrête de lui dire, ça n'a pas assez, va travailler, il manque encore, il en prend une autre maison, il est fatigué. Calme, c'est bon. Laisse-le tranquille. Vous avez de quoi vivre, la maison elle est payée, et bien il y a des exigences un petit peu au moins graves. Parce que toi tu dis non, mais tout le monde est parti à Monaco, et moi je me compte au festival de Miami, et bien voilà, il a fait l'arrêt cardiaque. Voilà, il l'a fait. Ça va, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour s'arrêter. Il a dit bon, je vais mourir parce que c'est trop dur. Celle-là, elle ne va jamais s'arrêter. Toujours insatisfaite, il est petit ce diamant, tu m'avais promis de la fontaine de diamants, et c'est quoi cet hôtel pourri, moi je vais aller là-bas, et puis tu devais nous louer une île pour cet été. Maintenant il est mort. Comment il va faire le chèque? Il est mort. Il a fait l'arrêt cardiaque, tu vas lui dire, lève-toi! C'est honteux! Allez, viens, ils nous attendent là-bas, il y a toute la famille qui nous attend. Il faut que tu sois. Le mec, il peut pas, il est là, il est en train d'aider, il a des ennemis. C'est jusqu'à quand? Jusqu'où tu vas? Quand est-ce que tu vas arrêter d'exiger des choses qui sont pas dans la réalité? Et bien, quand toi, tu reviens aux essentiels, ouais, ce qu'on appelle revenir aux fondamentaux, en fait, ça s'appelle irato konemet shemokmato. Quand j'ai ça a l'air marrant comme ça. Mais les gens qui le vivent, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Moi, je le vois de l'extérieur. Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de faire des études de psychologie. Mais l'observation zoologique des événements, comportement des animaux humains, ouais, parce que c'est la science, on est la fin du cycle animal, tu vois des choses, tu regardes ça, tu vois, là, je suis d'accord. Genre, là, je pense que celui-là, il descend des singes, celui-là. Je pense qu'il descend des singes pour avoir un comportement pareil. Ouais. Au contraire, quelqu'un il a une maîtrise, quelqu'un il a une essentialité, quelqu'un il a une spiritualité. Je dis, mais est-ce que le singe il a une spiritualité? Donc en fait, les gens qui pensent qu'on descend du singe, c'est les gens qui ont renoncé à la spiritualité, c'est-à-dire à la dimension qui n'a rien à voir avec l'animal. Mais les gens qui pensent qu'on descend pas du singe, c'est parce qu'ils ont une vision de l'homme qui est beaucoup plus grande que l'expression de ses instincts animaux. Parce que j'espère qu'on n'est pas des chiens qui habitent dans des maisons, j'espère. Et qu'on n'est pas des lions qui dévoreront notre femme. J'espère qu'on est des gens normaux. J'espère. Enfin, chacun choisira la catégorie, hein, de quel côté de la grille du zoo il est. Mais surtout, lisez le panneau, ne jetez pas de cacahuètes au singe. Là, c'est marqué ici. Il dit, irato, konemet le chochmato, c'est ça. Ça veut dire que c'est vadai, que c'est mitkayem. Qu'est-ce qu'ils font les chachamim, les gens intelligents, ouais? Ils ont un équilibre, ils ont un projet dans le business extraordinaire. Mais ils n'oublient jamais qu'il faut inscrire dans cette logique humaine une logique divine. Il ne faut pas oublier l'alaha. Il ne faut pas oublier le maaser. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont besoin. Il ne faut pas oublier. N'oublie pas. Écoute, c'est pas mon problème, moi j'ai fait mon chèque. Je vous avais raconté ce gars à Paris, il a fait un très très beau mariage dans un truc super classe qu'il a tout cachérisé, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est un truc, c'est pas cachère, il l'a fait tout cachère, il a fait 400 repas. Mais genre 400 repas, chaque repas 300 euros. Il a invité tout le gratin, tout l'arbabet, tout le tata. Mais il a dit au traiteur, tu fais 400 repas pour les invités et tu fais 400 repas pour les pauvres. Et on va les livrer demain avec Mazon, avec une association. Ils vont manger tous, ils vont manger la même chose. Moi, je vais manger plus que le pauvre. Les gars, ils se retrouvent avec du foie gras, avec du... Ils n'ont rien compris ce qu'il arrive. Pourquoi ? Pourquoi moi, je vais là en train de kiffer et l'autre, il va mourir ? L'autre, il ouvre sa boîte de sardines et... Pourquoi ? Là, il a compris. Il a pris Chochmato et Irato, il les a mis sur le même plateau. Et ça bouge. Ça avance, ouais. Ça avance. Moi, déjà, il gagne des millions d'euros. Mais il y en a comme ça à Londres. Chaque mois de Saint Shabbat, l'échec. Les gens, ils viennent. L'enfant, il est malade, 30 000 euros. Pour marier un enfant, 2 000 euros. Il est là, tra, 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 tra. Et ses enfants à lui, quand ils lui disent, écoute, papa, j'ai 4 enfants, il a dit non, la voiture, c'est au 5e. Ils sont bourrés, même. Ils sont milliardaires. Et après, tu prends une voiture d'occasion de 10 ans. Parce que les 30 000 euros pour acheter une voiture, je vais les donner pour un mariage. Mais toi, pour l'instant, tu vas t'acheter une voiture à 3 000 euros, une Volvo de 98, et tu vas rouler avec, tant qu'elle roule. Et moi, je te paye les réparations. C'est comme ça. Et c'est normal. C'est comme ça qu'il éduque ses enfants. Et les gars, ils sont dans ce sens. C'est incroyable. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé Chochmato, Irato sur le même plan. C'est le vecteur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le moteur de son projet, c'est sa vision divine. Pourquoi? Parce qu'un bétail, il va tous mourir. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout le foie gras que tu as digéré, et le marbre que tu as mis au mur, et le plaqué or au plafond? Les gens disent, vous savez, c'est de l'or. Hein?
Non.
Mais c'est de la peinture d'or. Oui, c'est ça. On a un décorateur intérieur spécialiste à Milan qui nous a donné ce conseil. Vous mettez de la peinture d'or. Ah bon, de la peinture d'or? Et combien? Ben oui, il y a 600 mètres carrés de plafond. Oh, en or, oui, en or. En or, au plafond. Tu montes sur une chaise, tu essayes de gratter au moins une alliance pour ta femme, tu dis. C'est ça. Il y a tout que de mettre les chochmato, ouais, ça veut dire que la personne, elle va choisir comme vecteur, directeur de son projet personnel, le projet divin. Et comment tu le sais? Parce que quelqu'un va dire, bon, après, on fait des mitzvot. Tu crois qu'on ne fait pas des mitzvot? Bien sûr qu'on fait des mitzvot. Tu sais comment tu le sais? Parce que quand tu fais tes mitzvot avec intelligence et tu fais ton business avec Emouna. Si tu fais ton business avec Emouna, ça s'appelle Irato Konemet des Chochmato. Ouais? Si tu fais tes mitzvot avec intelligence, tu dis, oh, écoutez, j'étudie, je viens, je fais mes 2 heures, je dors, et après je m'en vais. Non, j'ai appris, je connais cette Mishnah, j'ai appris ça. Cette année, j'ai fait 250 Mishnayot, j'ai fait 63 Napim, j'ai appris, j'ai fait tout Shmuel. Ça fait que tu fais tes mitzvot avec intelligence. Ouais. Et tu as la prière, j'organise pour avoir la concentration et que chaque bracha, elle soit avec la kavana. Et je suis à Baruch Hu déjà avec la kavana. Donc je fais les mitzvot avec intelligence. C'est pas je fais les mitzvot, je viens recevoir. On n'est pas des égoïmes quand même. Alors je vais étudier. Quoi, t'es pressé? Tu fais les mitzvot avec intelligence. Comment je sais que tu fais les mitzvot avec intelligence? Parce que je vois que tu as une chorma dans ta ira. Oui? C'est aussi le Rav de Brice qui disait ça. Il a dit, tu dois mettre la chorma que tu as. Du rôle, tu la mets dans les mises-votes. Pourquoi tu fais pas de mises-votes? Pourquoi tu fais une mise-vote idiote? Fais une mise-vote intelligente. Et le contraire aussi, que dans ton business, dans ta forma, tu dois avoir la RA. Et comment tu sais, c'est la Emouna. Ouais. Toi, tu vas voir le client. Toi, tu installes ton stand. Ouais. Toi, tu dis, écoutez, monsieur, je m'excuse, Shabbat, il rentre, on arrête les pourparlers. Mais enfin, ici, vous êtes en Thaïlande, monsieur. C'est quoi le problème? Écoutez, c'est Shabbat. C'est Shabbat dans une heure, je peux pas. Si vous voulez, on en reparle dimanche, sinon, non. Comment? Mais vous savez le nombre de gens qui m'attendent? Vous savez ce que c'est d'avoir un rendez-vous avec moi? Vous savez que je suis le plus gros acheteur pour tous les États-Unis? Ok, 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 ok. Mais maintenant, Shabbat est dans une heure. Voilà. Donc, je vais rentrer, je vais aller à l'hôtel, je vais prendre ma douche et je vais aller chanter les chadodis avec tout le monde. Et vous ratez une affaire. Je rate rien du tout. Je ne rate rien. Enfin, que si je reste avec vous, même si vous me signez 1 milliard, et qu'après j'arrive, je suis dans l'ascenseur, et que le chauffeur me dit, alors on prend la voiture. Et après, je rentre dans Shabbat, comme ça, comme un pathos. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Pourquoi faire? Mais chaque fois qu'il m'arrive un malheur, aux enfants, ou dans la famille, ou dans l'ascenseur, ou dans la voiture, je veux dire, ça c'est le contrat de Shanghai, ça je suis sûr. Alors pourquoi faire? Pour imprégner d'angoisse la moitié du reste de ta vie? Pour un contrat? Imagine, tu n'étais pas là-bas, voilà, je n'ai pas venu. Je ne l'ai pas vu, voilà, je ne l'ai pas vu, qu'est-ce que je vais faire? pour ça que j'ai dit toujours qu'il ne faut pas se plaindre quand on a des petites épreuves. C'est pas grave. T'as une petite épreuve. Par exemple, tu es à la synagogue, et il y a un gars qui vient te parler pendant la chazara. Ouais, tu te dis, en fait, combien t'as payé ta Mercedes? Et l'autre, il dit, t'as un problème, blablabla. Alors, tu as deux solutions. Soit tu lui dis 22 000, soit tu lui dis. C'est une petite épreuve. C'est rien. Tu veux ou non? C'est une petite épreuve. Maintenant, ces petites épreuves-là, c'est elles qui te donnent l'exercice pour atteindre et pour pouvoir supporter les grandes épreuves. Ça s'appelle apprenti sage. Apprenti sage. Sage, c'est Chacha, et apprenti, c'est Talmud. Talmud, Chacha. Un apprenti, c'est un élève. Et un chacham, c'est un sage. Maintenant, un sage, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau. Et un apprenti, c'est quelqu'un qui est en recherche de niveau. Maintenant, toute la vie, on est en recherche de niveau, accession de niveau. Recherche de niveau, atteinte de niveau. Recherche de niveau, atteinte de niveau. Ouais, t'as eu un petit discours avec ta femme, elle arrive en retard, t'as rien dit. Tu dis, mon amour, ça a été... Il y a des embouteillages de fou. Puis il dit, ah, oh, c'est bien, je vais t'aider pour prendre les courses. Mais si toi, t'avais manqué des écarts-routes, tu aurais dit, c'est quoi cette heure? Ça fait une demi-heure, je suis devant la porte. Tu sais très bien que j'ai pas les clés. Elle s'est dit, écoute chérie, j'ai fait la moitié de Milan. J'ai amené 180 kilos, je suis devenu un chameau pour faire les courses. Toi, t'as rien fait. Et en plus, tu m'engueules parce que t'attends devant la porte. Mais t'avais qu'à prendre la clé. Ah, mais tu sais, j'ai pas la tête, moi j'oublie les clés. C'est toi qui me dois porter les clés. Alors ta mère, elle t'a porté les clés. Ta grand-mère, elle t'a porté les clés, tu veux que je te porte les clés? Voyez, tu n'as rien du tout, rien, un demi-doigt de l'écart de zohout, il t'a pourri la vie. Tu vois, tu la vois comme ça arriver, tu ça va chérie? Oh, il y avait des embouteillages, c'est rien. Ou non, oh, comment ça se fait que tu arrives à sortir? C'est des bêtises, mais ces petits nichonotes, ouais, ils vont t'aider quand tu auras des grandes épreuves. Qu'est-ce que c'est, Shalom, il y a un enfant qui est très malade, ou s'il y a une fausse couche, ou s'il y a un truc. Tu vas trouver les mots gentils. Si déjà tu fais la gueule pour un retard d'une demi-heure, comment tu vas trouver la solidarité pour accompagner la personne dans une maladie? Donc en fait, c'est des apprentissages. Vous voyez? Mais encore une fois, pour que toi, tu sois un bon élève, il faut que tu aies une attitude d'apprendre de cet événement. Et comment il s'appelle l'attitude pour apprendre de l'événement? Elle s'appelle « Ira treto kodemet le chokmato ». C'est pour ça qu'il y a une gemara incroyable. J'ai encore relu la dernière fois, ça m'a semblé bizarre. La gemara dans Brachot, d'afflamer la mode bête. Tout le monde s'est connu là-bas. La gemara dit tout ce qu'on apprend de la prière de Hana. D'accord? Hana, la mère de Shmuel, elle était au Beth Amikdash. Et elle était en train de pleurer, en train de prier et de pleurer pour avoir un enfant. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Élie le prophète, Élie le Kohen Gadol, quand il est rentré, il a vu qu'elle était en train de prier. Ouais. Mais il a cru qu'elle était sous. Parce qu'en fait, elle était en sanglots et tout ça. Il a cru qu'elle était sous. Elle était en train de. Shikora, ouais. Rajva et Shikora, c'est marqué. Alors il a été là-bas, il a dit, ouais, Admata et Kishtakrim, jusqu'à quand vous allez vous saouler? Et elle lui a répondu, Lo Adon, Ata, Lo Adon. Ouais, Lo Adon, ça veut dire non, maître. Mais la Gemara, elle dit, c'est quoi Lo Adon? Elle dit, tu n'es pas Adon, ça veut dire tu n'es pas maître de la situation, et tu n'as pas, regarde, la Shekhina, il n'a pas été avec toi parce que tu n'as pas jugé du bon côté. D'accord? Ça veut dire que, ça veut dire, écoutez bien, c'est violent, hein. Ça veut dire que juger les caps de route, ouais, c'est un signe que la Shekhina est dans toi. Tu sais le nombre de personnes qui jugent du mauvais côté. Tu peux en remplir des stades de foot. Ouais. C'est que si toi, tu as une nature positive de voir le bon côté, ou si tu ne vas pas lutter contre ta nature négative de voir du mauvais côté, ça veut dire que la Shekhina t'a quitté. Lo Adon Ata. Parce que la Gemara dit, Ve'en Roi HaKodesh Imcha. Tu n'as pas le Roi HaKodesh. Mais tu dis, mais moi je disais, mais quel Roi HaKodesh? Je vois quelqu'un qui est sous. Alors je dis, bon, ou elle est sous, ou elle pleure. C'est pas du Roi HaKodesh. Ça veut dire que voir positivement, c'est du Roi HaKodesh. Ça va? Pourquoi? Parce que la Neshama, elle voit toujours positivement. Le problème, c'est que devant l'éclairage de la Neshama, tu mets ton esprit. Et ton esprit, il est faussé par ton orgueil, par ta bêtise, par l'existence de l'autre, par la remise en cause. Donc, ton esprit positif, il va virer négatif. Et ça, encore une fois, c'est quoi? C'est une lecture de l'attitude que tu as envers les choses. Parce que pourquoi tu as une vision négative? Et pourquoi tu ne vois pas les quatre autres? Et pourquoi tu ne fais pas? Et maintenant, et de laisser passer l'éclairage de la Neshama avant l'éclairage de ton cerveau, ça s'appelle Iratreto, qu'on émette les Chochmato. Vous voyez cette lecture-là ou non? Alors si c'est ça, maintenant on arrive à quelque chose d'incroyable. C'est que... Attendez, je suis là. En fait, c'est un pasouk dans la paracha de Béa. C'est marqué comme ça. Kili, vous êtes pas fatigué là, ça va? Kili Bene Israël Avadim. Ouais, car pour moi, les Bene Israël sont des serviteurs. Avadai Em. C'est connu ce pasouk. Ouais. Ce sont mes serviteurs. Asher Otseti Otam Neret Mitzrayim. Que j'ai fait sortir d'Égypte. Ani Asher Nokechem. Je suis l'éternel, votre Dieu. Bon, ce pasouk, il est spécial. D'accord? Parce que. En fait, on parle de quoi là-bas? On parle d'un rêve d'Ivry qui a vendu sa force de travail pour 6 ans et qui se trouve bien dans ce statut de serviteur et qui veut prolonger jusqu'à 49 ans. La Torah dit, qu'est-ce qu'on va faire? On le met contre le poteau de la maison et on va lui trouer l'oreille. Pourquoi? Parce que cette oreille-là, qui a entendu au Arsinaï, vous êtes mes serviteurs, velo avadim les avadim, et pas les serviteurs de serviteurs, alors on va la trouver. D'accord? Mais c'est ça le pasouk. Qui lit Béné Israël à Avadim, car pour moi les Béné Israël sont des serviteurs, Avadai aime. Mais en vérité, ce mot-là, il ne sert à rien. Parce que si Hachem il avait dit directement dans le pasouk, qui lit Béné Israël à Avadim, car pour moi les Béné Israël sont des serviteurs, Asher Otseti Otamer et Smithraïm, que j'ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que comment je les ai acquis en tant que serviteurs? Parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Alors à quoi il sert le pasouk Avadai aime? Le mot, ouais, mes serviteurs. Ani Hachem Elokechem, je suis l'éternel. Votre Dieu. Alors il faut comprendre une chose qui est très très importante, cette notion de Eved Hachem, que quelqu'un il est serviteur d'Hachem. Ouais. Quelqu'un pourrait dire, écoutez, vous savez, moi, avec la Révolution française et l'abolition de l'esclavage, je pense qu'on n'est pas obligé d'envisager la notion de serviteur. Pourquoi on a besoin? Pour qu'il y ait un serviteur, il faut qu'il y ait un roi. Et puis ça peut être mal vécu, c'est que les gens n'aiment pas les stress, n'aiment pas les contraintes et n'aiment pas les obligations. Mais de toute façon, tu es serviteur. Ouais. Celui-là, par exemple, il est obsédé sexuel. Donc, il est esclave de son obsession. Celui-là, il est Baal Gaava. Il est orgueilleux. Donc, il est esclave du regard de l'autre. Parce qu'il veut tout le temps les compliments. Celui-là, il est intelligent dans le positif. Et bien, il est esclave de son cerveau. Parce qu'il n'arrive pas à dire des bêtises. Parce qu'il est intelligent. Celui-là, il a tout fait pour être idiot. Donc, il est esclave de ses limites. Parce qu'il n'arrive pas à envisager une deuxième possibilité, parce qu'il est tellement bête qu'il voit seulement une seule possibilité. Oui. Celui-là, il est esclave de son entourage. Celui-là, il est esclave du conditionnement qu'il a subi. Celui-là, il est esclave de sa jeunesse. Celui-là, il est esclave de ses moyens. Celui-là, il est esclave de la société. De toute façon, il est esclave. Pourquoi? Ça s'appelle Adam Olech Achar Zivota. Un homme, il va selon son entourage. Alors, si un homme va selon son entourage et qu'un homme, il est le fruit du conditionnement de son entourage, alors il n'y a pas de liberté. Parce que tu es fruit de ton entourage. Non, il y a une liberté, c'est de choisir son entourage. Ouais. Tu choisis ton entourage. Tu t'entoures d'idiots, c'est vrai que tu vas finir idiot. Tu t'entoures de gens intelligents, tu as des chances de devenir intelligent. Tu t'entoures de gens généreux, tu t'entoures de gens radins. Tu t'entoures de gens spirituels ou tu t'entoures de gens matériels. Ça, tu as le choix, ça. Ouais. Parce que le gâteau, quand vous le mettez au four, il cuit. Mais quand vous le mettez au congélateur, il congèle. Donc en fait, tu choisis ton milieu et tu choisis l'influence. Mais donc, quand c'est marqué que Anochi Hashem Elokechem, et juste avant, que vous êtes mes serviteurs, pourquoi Asher Otseti, Otam Meres Israël, que je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors il faut comprendre une chose. Je peux vous le dire à vous parce que vous êtes des gens matures, mais réfléchissez bien. Si les bénis Israël n'avaient pas été esclaves à 100% des Égyptiens, est-ce qu'ils auraient pu devenir des serviteurs d'Hachem à 100%? Vous savez combien de temps il faut pour l'apprentissage d'un enfant? Entre 20 et 32 ans, ça dépend du niveau de maturité. Et vous savez combien il faut de temps pour faire l'apprentissage d'un peuple? 210 ans. Parce que combien ils sont rentrés en Égypte? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. Je ne parle pas des 12 millions qui ont décidé de rester en France, en Égypte. Mais ils sont restés 3 millions, ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ces 3 millions-là, c'est des gens qui ont vécu, ça veut dire, et qui sont nés en Égypte. Leurs parents sont nés et sont morts en Égypte. Leurs grands-parents sont nés et sont morts en Égypte. Donc le gars, il est dans une mentalité d'esclave à 100%. Ouais. Et maintenant, et Hachem, il vient, il fait des miracles, il le sort d'Égypte. Et il lui dit, maintenant, tu acceptes la Torah et tu deviens mon serviteur. S'il n'avait pas été un esclave à 100% de l'Égyptien, il n'aurait pas pu devenir un serviteur à 100% d'Hachem.
C'est comme ça, il est allé intérieur.
Voilà. Exactement. Alors tu vas dire, attends, mais c'est grave. Alors en fin de compte, on est passé d'un esclavage à l'autre. Mais toute la vie, c'est comme ça. Quand tu es jeune, tu es esclave de tes parents. Après, tu es esclave de tes études. Après, tu es esclave de ton conjoint. Après, tu es esclave de tes enfants. Alors c'est ça la vie? C'est l'esclavage. Alors je te dis, ça dépend comment tu vis. Ouais. Celui qui vit par amour, c'est pas de l'esclavage. Et celui qui le vit pas par amour, c'est de l'esclavage. Celui qui aime les études, il n'est pas esclave de l'école. Celui qui aime ses parents, il n'est pas esclave de ses parents. Celui qui aime son conjoint, il n'est pas esclave de son conjoint. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui fait que tu es esclave ou non? C'est l'esprit dans lequel tu abordes l'événement. Toujours le même. Maintenant Hachem, il est venu, il leur a dit, vous allez devenir mes esclaves. Et comment il leur a dit? Ça c'est très très bizarre. Pourquoi? Et dans tout c'est pareil, parce que par exemple quelqu'un qui fait des études très très pointues, eh ben, toute sa vie il va être rigoureux dans son raisonnement. Quelqu'un qui ne fait pas du tout d'études, il ne va pas être rigoureux dans son raisonnement. Donc tu crois que le fait d'avoir été rigoureux dans ses études, ça l'a rendu esclave? Au contraire, ça l'a libéré. Par contre, le contraire, celui qui n'a rien fait du tout, eh bien, il n'arrive pas à raisonner, il n'arrive pas à synthétiser, il n'arrive pas à décider. Donc il se fait avoir quand il achète la maison parce qu'il prend un taux de crédit trop cher. Après, quand il éduque les enfants, il fait de grosses erreurs. Donc du coup, il les paye pendant des années. On lui avait dit de faire des études, on avait dit de réfléchir. D'accord? Donc ça veut dire que tu sois esclave par soumission ou que tu sois esclave par omission, tu vas être esclave. Alors là, c'est intéressant. Parce que quand c'est marqué « Asher Otseti, Meheret Mitzrayim » que je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous savez, une fois j'ai parlé avec un professeur de droit. Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, vous ne vous rendez pas compte de la révolution intellectuelle et juridique que la Torah a apportée. Parce que si vous prenez le moment où la Torah a été donnée, les gens, c'était des barbares. Ils mangeaient leurs enfants, ils sacrifiaient des gens pour Zeus et pour Apollon. Ouais. Ils violaient leurs sœurs, ils se nettoyaient les mains dans les cheveux des esclaves. Ils coupaient les bras des gens qui couraient trop vite. C'est n'importe quoi, c'était des animaux. Donc quand la Torah elle est venue et elle a dit, par exemple, tu ne feras pas plus que ce qu'on t'a fait, œil pour œil, dent pour dent, comme tous les ignorants, ils réalisent, oui, la cruauté de la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Mais avant, quand il y avait deux groupes, il y avait deux familles, et qu'un d'une famille, il allait violer une fille de l'autre famille. Mais qu'est-ce que se faisait la famille de la femme violée? Elle tuait la moitié de la tribu. Donc le fait... En droit juridique, de ne pas faire plus que ce qu'on t'a fait, ça hidouche. D'accord? Après, le fait de dire qu'on va compenser financièrement la perte d'un membre, mais ça hidouche. Le fait de dire qu'on va réguler les lois du mariage, mais ça hidouche. C'est un enseignement incroyable. Le fait qu'on va dire tu ne dois pas convoiter, d'accord? Mais c'est un truc incroyable. Le fait qu'on va dire que quand tu voles, tu dois rembourser, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est des lois incroyables. C'est que si tu prends la Torah dans son contexte des barbares de l'époque, c'est incroyable. Ben c'est exactement pareil. Quand Hachem est venu, il nous a sortis de Mitzrayim. Mais il n'a pas sorti que nous de Mitzrayim. Il a sorti l'humanité de Mitzrayim. Parce qu'ils étaient dans un monde de sauvages. C'est 99% de l'humanité et de l'humanisme, ouais, il vient de la Torah. Les Incas, ils coupaient les gens en morceaux. D'accord, c'était normal. Les Espagnols, ils massacraient tout un peuple pour prendre leur terre. C'était normal. C'est des sauvages, soi-disant des sauvages, mais en réalité, c'est pour prendre les richesses du pays. C'était des monstres, c'était des animaux. Ouais, l'esclavage, il a été aboli très tardivement, soi-disant la liberté, la poésie, la compréhension et la tolérance. Mais l'esclave, c'était quoi alors? Ils trouvaient ça normal que le gars, il est noir, donc c'est normal que depuis la naissance, il est condamné à laver les toilettes. Pour eux, c'était normal. Il y avait la race, la sous-race. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah est venue, elle a donné la sortie d'Égypte, et elle a donné la sortie d'Égypte au niveau du peuple, au niveau humain en général, et au niveau individuel aussi, parce qu'on a expliqué déjà un million de fois que Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Metzarim, et que Metzarim, c'est les limites, et Asher Otsetzicha Meretz Mitzrayim, c'est que je t'ai fait sortir de tes limites. C'est-à-dire qu'un homme, grâce à la Torah, il sort de ses limites. Quand la Torah te dit, tu ne regardes pas parce que ce n'est pas bien, mais ça t'enlève la maladie de l'obsession. Et quand on te dit, la jalousie, elle sort l'homme du monde, et bien toi, tu enlèves. Et quand tu acceptes ce qu'Hachem t'a donné, mais tu te soignes d'une maladie. Ça s'appelle la convoitise, ça s'appelle la jalousie. Rien qu'avec ça, la Torah t'a soigné. Quand tu as la Emouna, c'est pas seulement que tu crois en Dieu, c'est aussi que tu acceptes ce que la réalité t'a donné. Mais tu te rends compte que tu es sorti de la gravité obsessionnelle de penser que l'autre, en consommant, il t'empêche de consommer. C'est une grave maladie, ça. Et que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister. Parce que tu as la Emouna, qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est combien tu as gagné à Sharon Setsicha, mais Eretz Yisrael, c'est-à-dire combien de névroses, et combien de peurs, et combien de stress, et combien de lourdeurs. C'est ça, Sharon Setsicha, mais Eretz Yisrael. D'accord ? Pour ça qu'on dit Bechol dans Vador, ouais, dans chaque génération. Un homme, Chaya Badam, Nirod et Tatmo, qui lui, Yatsan Mitzrayim. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, je vous ai déjà dit, c'est Rosh Chadash. À chaque mois, tu dois avoir une tête nouvelle. Et Rosh Hashanah, Shana, c'est Shinoui, c'est le changement. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinoui, c'est le début du changement. Et tous les matins, on se lave les mains parce qu'on est Bria Hadasha. On est une nouvelle créature. C'est qu'on passe notre vie à changer. Mais qui c'est qui t'a donné cette notion qu'un homme, il n'existe que parce qu'il évolue? Mais ça s'appelle Asher Otsetzicha Meretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de tes limites. C'est-à-dire que la notion même de l'évolution, elle vient de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si on a un peuple qui fabrique 25 ou 26 brevets par jour, ouais, et si on a des tellement de prix Nobel, et si on a tellement de chidushim, et si on a tellement de renouvellement, mais c'est parce qu'on est dans une logique que la sortie d'Égypte est une réalité physique vécue. Alors que l'autre, il va dire, ça fait 4000 ans qu'ils sont dans les tentes avec leur chameau, ils ne changeront pas parce qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte. L'autre, il pense toujours qu'il ne gagnera qu'en tuant les autres parce qu'il est pris dans son Égypte personnelle. Celui-là, il est sûr que la perversion, c'est ça qui amène la réussite. Eh bien, il est pris dans son Égypte personnelle. Donc, ça veut dire que quand la Torah nous a sortis d'Égypte, mais quel bonheur! Alors, le problème, c'est quoi? C'est que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait avec cette sortie d'Égypte? Il dit, Ben Ezra, il pose la question. Il dit, comment ça s'est passé? Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. D'accord? Quand ils sont sortis d'Égypte, un petit peu comme les gens qui étaient à Auschwitz, ils ont vu les Américains arriver. Ouais, ils ont vu les Russes arriver qui les ont sortis. Et comment ils vont remercier? Comment ils vont faire? Donc les Bnei Israël, quand Hachem les a sortis d'Égypte, ils sont tournés vers Hachem, ils ont dit, mais Hachem, mais comment on peut faire, comment on peut te rendre ce bonheur et cette joie que tu nous as libérés d'Égypte? Hachem, il leur a dit, si vraiment vous voulez me rendre le bien que je vous ai fait, faites les mitzvot, acceptez la Torah et les mitzvot. Et les Bnei Israël, ils ont dit, ok, on accepte la Torah et les mitzvot, super. Alors les Bnei Israël, vous avez compris qu'ils ont accepté la Torah et les mitzvot par akaratato, par reconnaissance pour le fait qu'Hachem les a sortis d'Égypte. Ça va? Super. Maintenant, tu vas dire, attends, je ne comprends pas. Quelqu'un m'a fait du bien, d'accord? Quelqu'un m'a fait du bien. Et moi, je dis, tu sais quoi? Je veux te rendre ce bien. Alors je dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors l'autre, il dit, écoute, tu sais, si tu veux me faire du bien, fais ça et ça et ça. Je dis, ok. Mais quand Hachem, il a demandé au Bnei Israël de faire les mitzvot, si tu réfléchis bien, les mitzvot, elles sont au profit de qui?
De l'homme.
De l'homme ou d'Hachem? Elles sont au profit de l'homme, au profit de nous-mêmes. D'accord? Donc c'est bizarre. Hachem nous a fait du bien. On lui a dit, comment on peut te rendre ce bien? Il a dit, si vous voulez me rendre ce bien, alors faites-vous du bien. C'est bizarre, non? Oui, mais pourquoi? Nous, on veut lui rendre à lui. C'est comme si vous, quelqu'un vous a invité Shabbat, alors vous lui amenez une bouteille de vin. Lui, il vous dit, écoute, la bouteille de vin, j'accepte à une condition, c'est que c'est toi qui la bois. Donc, il dit, mais enfin, je t'ai amené pour toi. Tu dis, non, c'est toi qui la bois. C'est comme les enfants. Les enfants, ouais. Un jour, il y a un enfant, grâce à Dieu, ses enfants, ses parents l'ont bien éduqué, et il a fait une bonne école d'ingénieur, et grâce à Dieu, maintenant, il gagne 250 000 euros par mois, et donc il arrive en fin d'année, il a un beau chiffre d'affaires, ça fait 5 ans qu'il travaille, et grâce à Dieu, ça y est, il a touché le milliard. Il va voir son père, il dit, écoute, papa, j'ai pris une société d'audit spécialisée dans le calcul des frais, et j'ai calculé que tout ce que tu m'as apporté durant les 22 ans jusqu'à ce que je me marie, ça a coûté 358 000 euros. Donc, j'ai fait le chèque, le voici, merci, papa. Le père, il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je vais te payer tous les frais qui ont été engagés pour moi. D'accord? C'est 358 000 euros. Pour un non-juif, c'est 120 000 euros puisqu'il ne paye pas l'école. Mais nous, comme on paye l'école et les redoublements, donc ça fait 358 000 euros en incluant le cachet. D'accord? Donc c'est 358 000 euros. Le gosse, il dit, le père, il dit, attends, excuse-moi. Mais toi, ta mère et moi, on s'aime. On était contents qu'elle soit enceinte. On t'a aimé. On t'a donné. On t'a éduqué. On t'a suivi, on t'a enlevé la hamila, on t'a accompagné à l'école, on t'a aidé dans tes trucs, on a supporté ta crise d'adolescence, mais c'est que par amour. C'est pas qu'on t'a donné une prestation et que maintenant tu vas payer la prestation. Tu veux payer la prestation. Mais quel genre de pauvre type on a fabriqué? Que t'as pas compris que dans la vie il y a des choses qui ne se payent pas et qui ne se salissent pas avec l'argent. T'as pas compris encore ça? Donc tu dis, mais papa, mais c'est juste pour te rembourser, parce que c'est travail, tout cet argent. Mais quel argent? Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu crois que tu pourras rembourser un jour à tes parents? Ça ne se rembourse pas. Alors comment on fait pour rendre à ses parents ce qu'ils nous ont donné? La seule manière, c'est d'être à la hauteur de l'éducation qu'ils t'ont donnée. Si tu es un gars sérieux, si tu es un tzadique, si on peut être fier de toi, les parents disent, je suis payé, remboursé le double. Mais si tu es un pauvre type, tu crois que ton argent, il va rattraper la déception d'avoir mis au monde un pauvre type? Un cheval qui marche sur deux pattes, ça ne changera rien. Et c'est ça la logique. De la même manière, Hachem. Moi, une fois, personnellement, mon rab, c'était le voir. Un jour, je l'ai attrapé comme ça, je lui ai écoutez, rab, moi, je suis cash avec vous. Je dis, comment je vais faire pour vous rendre? Ces centaines d'heures d'enseignement, ce haut niveau dans la Guémara, ce très haut niveau dans la pensée juive, ce haut niveau dans la finesse, dans les comportements, dans les midotes. Comment je vais vous rendre toutes ces centaines d'heures où vous êtes venus avec la sciatique, avec le dos bloqué, avec la fièvre, vous êtes venus malade pour enseigner tous les jours. Comment je vais rembourser? Il m'a donné la même réponse. Il m'a dit, si tu es à la hauteur des enseignements qu'on t'a donnés, si tu es un type bien, on est largement remboursé. Largement. Et bien c'est exactement pareil. Toi, tu veux rembourser Hachem pour le fait qu'Hachem il t'a fait sortir d'Égypte. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais les mitzvot. Alors maintenant, ça devient intéressant. Parce que le mot, vous savez, chayav les mitzvot, ça s'appelle obliger les mitzvot. Maintenant, le mot obligé, il vient de la notion d'obligatoire. Et la notion obligatoire, elle a ce qu'on appelle une dimension anxiogène. C'est anxiogène parce que c'est obligatoire. Ils appellent ça les contraintes. L'anxiété. Ça crée de l'angoisse. D'accord? Alors maintenant, regardez. Alors, jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y avait un mot en français qu'on n'utilise plus. C'est très bizarre, on n'utilise plus. Mais avant, des fois, on disait en français, je suis votre obligé. Non, ils disent obligado. Ouais. Obligado. C'est bien qu'obligado.
Merci.
Je suis reconnaissant. Oui. Alors, je dis voilà. Mais est-ce que c'est une dette d'angoisse, l'angoisse? Non. C'est-à-dire qu'en français, quand je dis je suis votre obligé, ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait du bien, eh bien, je suis votre obligé. Alors, j'ai dit, c'est comme si ta mère, elle te téléphone à 4h du matin. Elle te dit, mon fils, elle a une double arthrose des épaules. Elle ne peut plus lever les bras. Et là, la chemise de nuit qui est tombée. Et elle est seule, parce que ton père, il est parti il y a 40 ans. Et elle est seule là-bas dans son petit appartement, à Florence. Elle se dit, est-ce que tu peux venir, mon fils, pour m'arranger la chemise de nuit? Je dis, maman, je suis à Milan, il est 14 du matin, je ne vais pas aller à Florence. C'est comme tu veux, c'est pas grave, sinon je vais appeler les pompiers. Bon, tu prends ta voiture, tu prends ton truc, je ne me rends pas très bien compte de la truc, et tu roules pendant 6 heures. Et tu ouvres la porte parce que tu as la clé et tu la trouves en train de dormir. Elle a mis un petit mot, elle dit excuse-moi mon amour, finalement je me suis débrouillé et je me suis endormi, j'ai pas pu t'attendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'insulter? Tu vas l'embrasser sur le front, tu vas lui dire c'est pas grave maman, tu mets un petit mot et tu t'en vas et tu retournes chez toi. Pourquoi? Parce que c'est ta mère. Ou tu vas lui dire écoute maman, il est 4h du matin, tu te débrouilles, c'est pas grave si tu meurs. C'est comme tu veux. Maintenant normalement, ces 4 heures de voiture, tu ne dois pas les vivre comme une obligation. Tu sais pourquoi? Parce que tu te sens obligé. Et obligé positif, pas obligé négatif. Tu veux ou non? Donc en fait, qu'est-ce qui va faire que rendre le bien, c'est lourd? C'est très simple. Si tu te sens obligé parce que c'est obligatoire, alors ça va être lourd de rendre le bien. Mais si tu es conscient du bien qu'on t'a fait, c'est toi qui te sens obligé positivement de faire le bien. Et ça te fait plaisir de pouvoir rendre le bien. Donc tu veux ou non? C'est ça, je suis votre obligé. Alors moi, je donne un exemple par rapport. Mais en vérité, toute la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont obligés d'aller au travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas travailler. Parce que c'est des flemmards. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sous-payés. Donc ils sont obligés d'aller travailler. Mais quelqu'un qui aime le travail, quelqu'un qui sait que ça lui fait du bien au niveau du mental, quelqu'un qui sait que grâce à Dieu, il est payé, il nourrit sa famille avec ça, il n'est pas obligé. Il se sent, lui, obligé, mais positivement. Oui. Quelqu'un, il ne se sent pas obligé de sourire à sa femme. Elle vient d'accoucher, la pauvre. Quelqu'un ne se sent pas obligé de dire bonjour à son mari. C'est normal, non? Il rentre du travail. Alors quoi, je suis obligé? Les gens ils m'appellent, genre, écoutez, essayez d'être gentil. Alors c'est encore à moi de faire des efforts. Pourquoi c'est un effort de sourire à une femme qui vient d'accoucher? Un effort? Mais va mourir! Mais meurs, c'est mieux pour toi! Comme ça, on ira sur ta tombe, on dira, il a fait une chose bien, il est mort.
Oui.
C'est pas un effort. Donc en fait, les gens, ils croient qu'il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Non! Il y a des gens reconnaissants et des gens qui ne sont pas reconnaissants. Maintenant, le manque de reconnaissance, il vient de l'égoïsme. Et l'égoïsme, il vient de l'orgueil. Donc en fait, c'est par orgueil que tu ne dis pas merci. Donc Hachem, il n'a pas dit, faites les mitzvot, sinon je vais vous tuer. Il a dit, Hachem, on te tire à Meretz Misraël. Moi, je vous ai sorti d'Égypte. Et vous, vous avez dit quoi? Tu nous as sorti d'Égypte. Mais comment on peut te rendre? Ben, Hachem, il a dit, si vous voulez, faites les mitzvot. Après, je suis tellement content de pouvoir rendre. Et si tu vas dire, attends. Moi, c'est mes arrière-grands-parents qui ont été sortis d'Égypte. Moi, en quoi je suis obligé de payer la dette de mes grands-parents? J'ai plus. Donc, ça veut dire que toi, tu ne vois pas les bienfaits que la Torah te fait au jour le jour. Donc, soit tu es un ignorant, ouais, soit tu es un cartésien, soit tu es chokhmato, kodemet l'irato. Mais si tu vois la chokhma de la Torah, si tu vois la finesse de la Torah, si tu vois la pureté de la Torah, si tu vois l'intelligence de la Torah tous les jours, si tu vois ce que la mitzvah t'amène, si tu vois le shalom qu'elle t'amène dans la maison, si tu vois l'intelligence qu'elle donne à tes enfants, mais tu dois passer ta journée à dire merci. Normalement, on ne devrait même pas avoir le temps d'aller travailler parce qu'on devrait être occupé toute la journée à faire le halel. Sinon, je vais... Allez, viens, reste ici. Reste ici, t'es vivant, non? Tu as au moins 5 heures de Tehillim par jour pour dire merci que t'es vivant. Parce que l'autre là-bas, t'as vu, là, il y en a un cardiaque qui est en train de... À qui va dire merci, lui? Le bon Dieu dit, c'est pas grave. Tu fais une petite prière, une heure. Après l'après-midi, tu fais une petite demi-heure. Après le soir, tu fais encore un petit quart d'heure. Allez, ça fait, va. Va faire maintenant, va faire tes 22 heures pour toi, puisque grâce à Dieu, tu m'as donné 2 heures. Comme si eux, non? C'est comme si tes parents, ils t'ont donné, maintenant ils sont malades. Après, tu sais, il faut rester avec elle, il faut lui parler, il faut l'appeler, il faut passer du temps. Je dis, papa, j'ai pas le temps, écoute, maman, j'ai pas le temps, tu sais, je travaille. Tu sais, mon fils, quand t'es né, tu sais combien de temps je t'ai resté avec toi? Tu sais combien de fois je t'ai tenu la main pendant la fièvre? Tu sais combien de fois toutes les nuits où je t'ai épongé pour pas que la fièvre elle monte? Et toi, t'as même pas une heure pour passer avec moi parce que soi-disant, tu as le salon ou tu as les entreprises ou tu as rendez-vous avec la banque. Mais si je t'avais pas mis au monde, tu n'aurais pas eu tous ces soucis de banque, c'est dommage. On a fait une erreur quelque part avec ton père. Donc maintenant, toi, naturellement, tu dois dire aux gens, tu dois dire à la banque, excusez-moi, le mercredi après-midi, maintenant, je suis avec ma mère. C'est pas possible. Alors, on développe une entreprise. Écoutez, c'est une entreprise sérieuse ici. Eh bien, ma mère, elle est dans le projet, ma mère. Et mon père, il est dans le projet. Et mes enfants, ils sont dans le projet. Et ma Torah, elle est dans le projet. Et mon couple, il est dans le projet. Je l'ai mis dans le projet. Mais si tu dis, écoute, et s'il nous reste du temps, on partira en vacances. Moi, je suis quoi? Je suis l'escroissance de la bonne, moi. Je suis une machine avec qui marche. Je suis ta femme. On a fait ensemble. On revient. Tu vois, des gens, des fois, les pauvres, ils travaillent. Ouais. Et après, ils disent, ben non, on va s'arrêter un petit peu. Ils tombent malades. Moi, souvent, j'ai dit à des gens, ça y est, grâce à Dieu, vous allez profiter de votre argent. Allez profiter de vous, allez prendre du temps pour vous. Ah, mais tu sais, c'est pas évident, grâce à Dieu, on a un nouvel investissement, on a une opportunité immobilière, et on va développer là-bas, et on a trouvé une usine en Moldavie. T'as 73 ans. Qu'est-ce que t'attends maintenant d'être paralysé pour dire, viens, on va regarder le coucher de soleil. On va se mettre devant la fenêtre les deux, on va compter les voitures qui passent à Milan. Allez, profitez. Reste avec vos enfants. Quand ton petit-fils va te balader avec lui. Oh, c'est vrai que tu aurais pu gagner 6 000 euros aujourd'hui. Et alors, tu as gagné 6 000 euros aujourd'hui. Mais ça, cette prise de conscience-là, ça s'appelle Asher Otsetzicha, Meretz Mitzrayim. C'est qu'en fait, quand Hashem il a dit Avadai Em, ouais, ils sont mes serviteurs, mais tu n'as pas compris que cette servitude au service d'Hashem, c'est elle qui te libère. Parce que pour l'instant, tu es serviteur de la société, tu es serviteur de ton fric, tu es serviteur de ta sexualité débraillée, ouais, tu es serviteur de ta bêtise, tu es serviteur de ta peur et de ta névrose et de ton Xanax et de ton Exomil. Donc, de toute façon, tu es serviteur. Donc quand la Torah elle t'a donné le moyen de sortir de ça, elle t'a libéré en réalité. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Avadai em, Asher otzeti otam meretz Mitzrayim, ani Hashem Elokechem. C'est que quand la Torah elle t'a donné la Emouna, mais elle t'a libéré de la peur. Ouais. Quand elle t'a donné le bitachon, elle t'a enlevé la préoccupation. Quand elle t'a donné la sérénité du bien-être, quand elle t'a donné des valeurs essentielles. Quand elle t'a donné l'équilibre de la famille, quand elle t'a donné le sens de l'essentiel, mais tu ne te rends pas compte de tout ce qu'elle t'a sauvé. Et cette logique-là, c'est l'attitude. C'est qu'en vérité, tu crois qu'il y a le Khan et le Kodesh. C'est une erreur. C'est faux. Il n'y a pas de Khan et de Kodesh. En vérité, il n'y a que du Kodesh. Et quand tu réfléchis, quelle attitude je dois avoir envers les Mitzvot et quelle attitude je dois avoir envers la réalité, en vérité, ça, c'est une lecture qui n'est pas juive. Parce qu'il y en a qui disent, bon, il y a le dimanche et il y a la semaine. D'accord ? Il y a dans l'église et en dehors de l'église. Il y a la mosquée et en dehors de la mosquée. Il y a la chambre à coucher et il y a la salle à manger. Mais nous, ça n'existe pas, ça. Nous, tu dois avoir un comportement digne le Shabbat et toute la semaine. Et tu dois avoir un comportement digne dans la salle à manger et dans la chambre à coucher. Et tu dois avoir un comportement honnête au travail et en dehors du travail. Il n'y a pas de différence. Donc en vérité, il n'y a pas de Khol et de Kodesh. Ça n'existe pas. Le profane, ce qu'ils appellent le profane et le saint, ça n'existe pas. Ils ont voulu faire des spécialistes. D'accord ? Genre, il y a le curé, il est là, c'est lui qui représente la spiritualité. Et à part ça, il y a tous les pécheurs. Mais non. Mamlechet Kohanim. Chaque juif, il est lui-même un représentant de Hashem. Chacun, Kol Echad V'Echad, Tzarich Liot Talmid Chacham. On est obligé d'être érudit. On est obligé de connaître toute la Torah entière. On est obligé d'appliquer toutes les mitzvot. Débrouille-toi. On est obligé d'être à 100%. Maintenant, tu ne vas pas mal le vivre parce que tu vas le faire par sentiment de reconnaissance. D'accord ? Mais tu vas atteindre ce côté entier. Et tu verras qu'en fin de compte, ce que tu crois, est-ce que le Chol et le Kodesh, en fin de compte, le profane, c'est l'apprentissage du Kodesh. C'est pour ça qu'il dit, quand à Rosh Hashanah, le pasuk qu'on dit, que celui qui a créé ensemble leur cœur, c'est lui qui comprend tous leurs actes. Il dit le Rav Sim Chazi seul. Il dit c'est quoi Mevin El Koma Asehem? C'est-à-dire qu'Hachem, il comprend tous leurs actes. Ça veut dire que on ne va pas toi te mettre en référence à Abraham Avinu. On ne va pas te mettre en référence à Hitler. On va te référence à toi-même. C'est-à-dire que le sérieux que tu avais dans le profane, ça va nous servir de sérieux, de référence, de sérieux pour les mitzvot. C'est-à-dire que si tu cours pour aller au cinéma, mais tu traînes pour aller à la synagogue, on va te reprocher. D'accord ? Si tu es généreux pour faire tes kiffs et radin pour faire les mitzvot, on va te reprocher. Si tu es très très cool avec les gens de l'extérieur et très dur et très radin avec ta famille, on va te reprocher. C'est-à-dire que ton chol, il va être la référence de ton kodesh. Parce qu'Hachem, il regarde le global, Amérine, elle colle ma ACM. Ouais, il comprend tous leurs actes. Donc maintenant, quand on pose la question, est-ce que l'attitude qu'on a envers les événements de la réalité et l'attitude qu'on a envers les mitzvot, elle est différente? Elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chol. Ça n'existe pas le chol. Ça n'existe pas le profane. Ouais. C'est pas que quand tu fais les mitzvot, quand tu mets les tefillines, tu fais une mitzvah, d'accord ? Et quand tu parles à ton fils, tu fais pas une mitzvah. Même quand tu es assis à la maison avec ta femme, comme ça, vous êtes à l'un en face de l'autre, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, tu fais une mitzvah d'être à la maison. C'est une mitzvah, d'accord ? C'est une mitzvah. Après, tu vois quelqu'un, tu lui souris, tu fais une mitzvah, c'est un chesed avec le visage. Ouais ? Et quand tu dis un mot gentil, un mot d'encouragement, tu fais un chesed avec la bouche. Et quand tu invites à manger, tu fais un chesed avec ta maison. Et quand tu donnes un don, tu fais un chesed avec ton argent. Donc tu ne peux jamais t'arrêter de faire une mitzvot. Il n'y a plus d'imit. Sans fin. Ouais. Et après ce cycle-là, comme on a dit, irato chochmato, et bien profane et sacré, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a plus de profane, ça veut rien dire. Parce que c'est un profane qui amène au sacré. Comme le Talmid et le Chacham. Ouais, c'est un apprentissage perpétuel. Et la preuve, c'est que ta femme, que tu lui fasses un grand cadeau, ouais, ou que tu lui fasses un petit massage, elle t'adore autant. Toi, tu dis, c'est dommage. Je vais t'offrir un boucheron de 9 carats. Elle t'a dit, tu sais, j'étais fatigué. Tu m'as dit, écoute, arrange-toi, je vais te mettre un petit peu d'huile. Tu lui amènes sur le dos. Elle t'a dit, mon amour, oh, tu sais comment j'avais mal. Tu sais ce que tu lui as fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un massage. Elle aurait pu se le payer à 45 euros. Oh, mais c'est toi qui l'as fait. Je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Dommage, t'as raté une mitzvah. Ouais, t'as raté une mitzvah. Et c'est cette logique, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas, maintenant, vous avez compris, il n'y a pas des petits gestes et des grands gestes. Il n'y a pas. Il n'y a pas la réalité et l'illusion. Et il n'y a pas le profane et le sacré, il n'y a pas. En fin de compte, il n'y a que le visage d'Hachem qui est devant toi, et toi en face de ce visage. Maintenant, quand tu es panim et le panim, quand tu es face à face avec Hachem, ouais, et que panim, c'est pnimi, c'est intérieur, donc en fait que toi, c'est ton intériorité qui est en face de l'intériorité d'Hachem. Ouais, c'est ton intériorité, c'est ton essentiel qui recherche l'essentiel. Maintenant, si le jour où tu comprends que le visage d'Hachem, en fin de compte, c'est juste le relief de la réalité, et que dans la réalité, il y a tout ton entourage, donc en fait, tu dois chercher Hachem derrière ton entourage. Donc il n'y a plus de rôle. Ouais, toute ta réalité, cet enfant qui vient vers toi, c'est Hachem qui t'envoie une question. Ouais, combien de gens ils ont fait teshuva? Quand ils disaient, papa, pourquoi ils prennent l'ascenseur? Pourquoi ils prennent la voiture? Parce que c'est des goyim. Et après, le père, il rentre dans l'ascenseur. Alors, il va dire, papa, t'es un goy. Alors, il veut lui mettre une baffe. Après, il a raison. Pourquoi je prends l'ascenseur? Parce que on va à la synagogue et je prends l'ascenseur. Donc, je suis un goy. Et bien, le gars, il a été choqué, il a commencé à faire chaval. C'est son enfant qui l'a ramené. Ouais, parce que l'enfant, il a été cohérent. Alors que lui, il était incohérent. Il dit, ben cette logique-là, c'est exactement pareil. Sauf que toi, tu peux le faire avec toi-même. Que toi-même, tu peux te dire, allez, je vais être exigeant dans mon rôle et je vais être exigeant dans mon collège. Et je vais être exigeant dans l'honnêteté du business et je vais être exigeant dans l'honnêteté de la tzedaka. Et je vais être exigeant dans la gentillesse que j'ai avec les clients et je vais être exigeant dans la patience que j'ai avec mes enfants. Et ben quand tu verras que sans arrêt d'un aller-retour, et ben la lumière de là, elle passe là, et la lumière de là, elle passe là, alors tu as compris pourquoi est-ce que quand on met deux miroirs l'un en face de l'autre, le reflet il est à l'infini. Ouais, parce qu'il y a toi et Hachem, et toi et ta réalité, et toi les événements, et la lumière de la volonté, et la lumière de la volonté, elle crée une image qui se reflète à l'infini. C'est ça la mission. Hazak Obaro. Merci à vous. Alors, c'est le dernier cours pour cette année. D'accord, on se revoit si Dieu veut en septembre, sauf ma chère, si ma chère arrive. Le cours il a été enregistré. Ouais. Non, par contre, je ne l'ai pas enregistré. Ah, si, je l'ai enregistré. Donc, vous pouvez le recevoir. Alors, étant donné que c'est les vacances et que je sais que vous n'aurez pas forcément de quoi manger pendant toutes les vacances, on a presque plus de CD de DVD. Donc, il faut absolument qu'ils partent. On vous les donne. C'est 50% le prix. Sinon, c'est gratuit. Si vous les voulez, prenez-les. Ça permet de réutiliser la prochaine fois. Parce que je ne veux pas que vous restiez deux mois en anorexie de Manchester. D'accord? Merci à vous. Merci à vous, du bonheur.